Louis.
Oui, mademoiselle.
Oui, maman, ça va?
Oui, ça va. Et toi?
T'as vu mon message sur les papiers de mamie ou quoi?
Oui, j'ai vu, oui.
Tu pourras regarder si t'as déjà des passeports, cartes d'identité, tout ça?
Oui, ça me dit quelque chose. Maintenant, je ne sais pas si on a, je ne sais plus. Je sais plus. Mais parce que sur tout ce que j'ai vu.
Depuis que je me suis renseignée sur les couples mixtes en Indochine, une légende familiale me travaille. Ma grand-mère Gisèle était vietnamienne. Née là-bas, elle s'est mariée avec un militaire français avant de venir en France. Ok. Mais elle avait quel âge au moment de tout ça?
D'accord. Et sur sa date de naissance?
Alors là, tu trouveras pas parce qu'elle avait fait changer sa date de naissance pour se marier.
Parce qu'elle était mineure quand elle s'est mariée.
Ouais, pour se vieillir. De 3 ans.
Donc, ça veut dire qu'elle avait 15 ans quand elle s'est mariée?
Je sais pas si elle s'est mariée à 15 ans, mais oui, elle était mineure.
Si elle s'est vieillie de
Enfin, je
3...
crois qu'elle était mineure, j'en sais rien.
Et toi, comment tu sais le truc des 3 ans, par exemple?
C'est parce qu'elle me l'a dit.
Malgré mes recherches, je ne saurai probablement jamais ce qui s'est passé précisément pour elle, à quelle date, dans quelles circonstances. Ce que je peux faire, par contre, pour essayer de comprendre, c'est de décortiquer le contexte. Ce que c'était d'être une adolescente vietnamienne, orpheline, à ce moment-là de la colonisation et de la fin de l'Indochine française. Et surtout, pourquoi elle ne nous l'a pas raconté. Je suis Anna Ebosser, vous écoutez Ma Tonkinoise, une enquête familiale dans les mémoires enfouies de l'Indochine française. Épisode 2, je dois faire l'autopsie d'un oubli. Alors il est temps de poser un peu les bases, c'était quoi l'Indochine française? À quoi ça ressemblait?
Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, la France a conquis des contrées entières sur tous les continents, et en particulier en Asie.
Alain Ruscio, historien de l'Indochine française.
L'Indochine française en tant que telle date de 1885. C'est donc la jonction un peu artificielle de 3 pays. Je dis un peu artificielle parce que entre Vietnam, Cambodge et Laos, il n'y avait pas d'unité de langue, il n'y avait pas d'unité de religion. C'était tous des bouddhistes, mais avec des obédiences diverses. Il n'y avait pas d'unité, disons, ethnique. Donc voilà, cette Indochine française a été considérée longtemps comme la perle de l'Empire, c'est l'expression qui a été employée, le fleuron du colonialisme français.
Évidemment, nous n'allons pas nous plonger dans l'exercice d'un cours d'histoire exhaustif. Ce qui m'intéresse, c'est l'organisation de la vie sur place.
Au début du XXe siècle, il y a à peu près 20 millions d'indigènes. J'utilise le mot de l'époque, il y a à peu près 40 000 Français. Donc ce n'est pas une colonie de peuplement, c'est une colonie de domination à travers, bien sûr, la présence du colon lui-même, celui qui possède la terre et qui la fait travailler par des salariés, ou parfois d'ailleurs sous la forme du travail forcé. Et puis, à côté de ça, il y a bien sûr les gendarmes, les douaniers, les policiers, les administrateurs, les juges, les hauts fonctionnaires ou les petits fonctionnaires et les commerçants. Bien sûr, dans toutes les populations, il y a des gens qui acceptent la présence étrangère, voire même qui collaborent, pas forcément politiquement, mais même économiquement. Il y avait une couche de la bourgeoisie vietnamienne qui a profité des miettes de la colonisation. Mais pour l'essentiel, et on sait cela aujourd'hui à travers de multiples témoignages, il y a eu des protestations parce qu'il suffisait de constater le quotidien des colonisés. Ils étaient exploités, leur existence même en tant que nation était niée, la répression était très forte, l'exploitation était très forte.
Donc, 2% de la population dirige l'Indochine. Je me rends compte qu'il me manque cruellement la voix des 98%. Dans la littérature francophone du XXe siècle, il y a certes Marguerite Duras et Barrage contre le Pacifique qui nous parlent de l'Indochine, mais il n'y a pas, à ma connaissance, de personnages indigènes avec des narrations propres, encore moins s'ils sont pauvres ou femmes. Pour comprendre la vie de Gisèle en Indochine, venant des campagnes du Nord, n'étant pas allée à l'école, orpheline, il faut que j'aille puiser l'info ailleurs. Avec quelqu'un qui a vécu cette période. J'ai contacté des associations, passé des appels à témoignages, discuté avec des réseaux diasporiques. Ça n'a pas été facile de trouver quelqu'un prêt à parler, francophone et vivant. Mais c'est là que ma rencontre avec Kim a tout changé.
Quand j'ai lu votre texto,
oui.
Ça, c'est notre tout premier échange au téléphone.
Je sais pas pourquoi, mais ça me faisait plaisir. Voilà. Et j'avais l'impression que j'avais rendez-vous avec vous.
Oh là là, quel beau temps, hein, n'est-ce pas ?
Et quelques semaines plus tard, je prends un train.
Vous connaissez Nantes ?
Pour aller la rencontrer chez elle, à Nantes.
Je suis née pupille de la nation. Ça veut dire que je suis née française. Voilà. On ne m'a pas demandé mon avis parce que mon père est mort pour la guerre.
Sur les papiers. Kim a 77 ans.
Fille posthume.
Et elle est née en Indochine. Ses deux parents étaient vietnamiens. Son père était traducteur pour l'armée française.
Et il est interprète parce qu'il parlait couramment français.
Il est mort dans le cadre de ses fonctions quand Kim était encore dans le ventre de sa mère.
Avant ma naissance.
Elle est donc née pupille de la nation et sa mère est devenue veuve de guerre.
Son sacrifice nous a beaucoup aidés.
Pendant longtemps, elle n'a rien dit de son histoire et ce n'est que récemment qu'elle a décidé de parler.
Tout ce que je me rappelle, c'est des lotus. Les lotus, les bananiers, les frangipanes et puis les grands arbres rouges, c'est les flamboyants. De l'odeur des fleurs, de la pluie, des petites grenouilles. Je me rappelle, dans les rues en ville, la rue Katina, il y avait tellement de fruits qu'en passant, on pouvait cueillir une banane et la manger, tu vois, en marchant. Là où je vivais, il y avait une maison habitée par des Français, mais on s'en approchait même pas et ils nous parlaient même pas. Non, je m'en rappelle, j'avais cueilli des fleurs de leur jardin qui dépassaient. On nous lâchait les chiens. Je comprends qu'il y a eu la révolution. Parce que comment tu veux faire ? T'es dans ton pays et on t'enlève tout.
Cette révolution dont parle Kim, c'est celle menée par le Front pour l'indépendance du Vietnam, aussi appelé Viet Minh. Depuis un siècle, la domination française a en effet fait grandir cette organisation politique et paramilitaire nationaliste. Elle est menée par un communiste qui a appris les droits de l'homme à Paris, Ho Chi Minh.
Donc, lorsque Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945, c'est pour le monde politique français, quasi unanimement, c'est un coup de tonnerre, c'est quasiment une surprise.
Alain Ruscio, historien de l'Indochine française.
Et le fait que les peuples colonisés aspirent eux aussi au droit à l'indépendance, à l'existence nationale, échappe totalement à l'univers mental et à l'univers politique des dirigeants des pays occidentaux et en particulier de la France. Et on peut considérer que le véritable début de la guerre d'Indochine est le 23 novembre 1946, donc à peu près 14 mois après la proclamation de l'indépendance, date à laquelle la flotte française va bombarder la ville du Nord-Vietnam qui s'appelle Haiphong.
Haiphong, c'est dans la province de ma grand-mère.
Au Tonkin, d'importantes forces franco-vietnamiennes ont été débarquées dans les boucles du fleuve Rouge, à une cinquantaine de kilomètres de Hanoï. Cette action locale était destinée à purger les rizières et les grands champs de maïs des nombreux éléments viet qui s'y terraient. Elle s'inscrit dans le cadre des opérations de grande envergure entreprises dans tout le delta.
La guerre se poursuit pendant quasi 10 ans.
J'ai côtoyé la mort tout le temps. Jusqu'à ce qu'on parte en France, mais on a vécu avec le bruit de la guerre d'une façon quotidienne. Donc j'avais deux frères, je devais avoir entre 5 ans et 8 ans. Toutes les nuits, ma mère, elle cachait mes deux frères parce que le Viet Minh venait chercher dans les villages les garçons pour les endoctriner, on dit, à la guerre. Donc j'ai vécu ça. Et je crois que si je ne dors pas, même maintenant si je ne dors pas, mais parce que ça m'est resté. Tous les bruits qu'on entendait, puis qu'on avait peur. Je crois qu'on ne dormait jamais. Et pour le Viet Minh, on était des traîtres, voilà, des collabos. Et puis ça se sait, tu sais, donc on sait qu'elle est veuve de guerre, qu'on était une nationalité française, qu'on était d'une famille pro-français. Tout le monde parlait français dans la famille de mon père. Donc, on vivait avec cette peur parce qu'on était vietnamiens, mais en même temps très français, quoi.
Pour ma grand-mère, comme pour Kim, la division entre les deux mondes, qui s'était amorcée en côtoyant les Français, devient définitive.
En France, le malaise grandit. Pierre Mendès France accepte de liquider l'affaire d'Indochine. Les 20 et 21 juillet 1954 étaient signés les accords de Genève. Et le 28 avril 1956, c'est le départ des Français.
À ce moment-là, toutes les familles qui ont un pied dans les deux mondes doivent faire un choix. Partir ou rester. Ma grand-mère a la nationalité française depuis son mariage avec le militaire. Et Kim aussi est française en tant que pupille de la nation. Elles sont citoyennes d'un pays qu'elles n'ont jamais vu et qui se situe à 9000 km. Elles choisissent de partir. Mais est-ce vraiment un choix ?
Il y a eu une sorte de panique qui s'est emparée d'une partie de la population du Nord qui craignait qu'il y ait des massacres. Donc 800 000 d'entre eux se sont installés au Sud. Évidemment, dans des conditions de matériel extrêmement pénibles, on considère qu'il y a eu à peu près 5 000 de ces personnes qui ont pu partir en France. Les autres sont restés, évidemment, et ont continué à souffrir de cet ostracisme.
5 000, c'est peu au final. Je ne sais pas comment Gisèle a pris sa décision. Elle était peut-être amoureuse, elle craignait sûrement pour sa vie. Les deux sont compatibles et n'enlèvent rien à la tristesse de son déchirement. Quoi qu'il en soit, elle a pris une décision définitive. Ma grand-mère a suivi son mari et elle a laissé son pays.
Ma mère, elle a réuni tout le village. Tout le monde pleurait. On nous a amené faire des photos chez le photographe. On était apprêtés, très chic. Et ben, on est arrivés, c'était vers le soir. Et ben, c'est les marins qui nous prenaient dans les bras pour nous descendre. Et ça, je me rappelle, ça me plaisait, je trouvais ça trop gentil. Et puis, une fois qu'on était dans le bateau, on ne pouvait plus redescendre. Et ça, tu vois, ça me fait la peine encore, maintenant.
Bon, alors viens, je t'explique.
Vas-y.
Ça, c'est le bateau.
Ah, trop bien. Anna Salène, départ de Saïgon. 3 juillet 55, arrivé à Marseille, 4 août 55.
Je suis chez ma mère.
Et qui a marqué ça?
Et on regarde la photo du bateau avec lequel ma grand-mère est venue en France. Sur la photo, en noir et blanc, retrouvée dans les cartons chez ma mère, on voit donc un grand paquebot blanc, neuf, avec écrit « Anna Salem » dans l'écriture cursive d'ado de ma mère.
C'est un bateau suédois. Voilà, c'est marqué.
Les puissances étrangères avaient en effet prêté des bateaux à la France pour l'aider à rapatrier ses citoyens et citoyennes d'Indochine. Le nom du bateau, ce n'est pas anodin. Les rapatriés se le demandent souvent entre eux. Kim me parle du sien. Son équipage n'était pas suédois, mais italien.
D'ailleurs, au bout d'un mois, quand je suis descendue du bateau, je parlais italiano. Ça savait uno, due, tre, quattro, cinque. Donc, quand je suis descendue, je savais compter. Les marins ont accepté qu'on monte sur le pont. Et donc, on passait nos journées sur le pont. Donc, on avait chacun un coin, on étendait le linge. Et c'était une vie sur le bateau.
Je ne m'attendais pas à ça, j'avoue. J'avais plutôt en tête des scènes de panique, des bateaux pleins à craquer. Dans les discussions qu'on avait eues avec ma grand-mère, j'avais retenu le dramatique, les gens malades, le temps de traverser. Dans le flou, je me suis inventé de faux souvenirs et les pires. En fait, les scènes que j'ai en tête sont celles de la fin de la guerre avec les Américains, qui a eu lieu 20 ans plus tard. Celles-ci, on l'a toutes et tous en tête. Avec Apocalypse Now, l'agent orange.
J'aime l'odeur du napalm au petit matin.
C'est d'ailleurs la guerre qu'on appelle guerre du Vietnam.
On avait lâché une chier de bombe. On n'a pas trouvé un macap de Viet, il n'y en avait plus un seul.
Ne tirez pas, ne tirez pas!
Apocalypse Now.
Good morning, Vietnam!
Good morning, Vietnam. Full Metal Jacket. Vous avez peut-être déjà vu ces images de gens qui veulent monter dans des hélicos sur le toit de l'ambassade américaine, des marées humaines, des embarcations de fortune. Eh bien ça, ce sont les scènes de la fin de la guerre avec les Américains, justement. En 75. Au fond, je savais que c'était pas les images de 55, mais je les avais calquées sur ma grand-mère en me disant « bon ben, ça devait être à peu près comme ça pour elle ». Mais les ordres de grandeur et le chaos n'ont rien à voir. Voici une archive qui parle de 75.
À l'époque, les chiffres donnent le vertige. En 10 ans, plus d'1 100 000 Vietnamiens prennent le chemin de l'exode. La plupart fuient par la mer. C'est le début des boat people. D'après les chiffres officiels, sur les 600 000 Vietnamiens qui fuient par la mer, un tiers va trouver la mort. Après les dangers affrontés sur la mer, les réfugiés sont conduits dans des camps de transit. Ils attendent souvent longtemps avant leur départ dans un pays d'accueil. Beaucoup d'entre eux choisissent la France.
Pourquoi j'ai tout confondu ? Pourquoi il faut que j'attende une enquête documentaire commencée à 30 ans pour distinguer et apprendre les périodes clés d'un pays super important dans mon histoire familiale ? C'est bizarre. Ok, les années 70 sont plus équipées en matériel vidéo, il y a du journalisme, puis il faut dire que le cinéma américain a pris beaucoup de place, mais quand même, est-ce suffisant ? Bon, il y a la place dans les livres scolaires peut-être. Alors j'ai regardé, la guerre d'Indochine est mentionnée, mais ne fait jamais l'objet d'un chapitre à part entière. Par exemple, en terminale générale, elle est évoquée, dans un chapitre bipolarisation et émergence du tiers-monde, avec la Chine de Mao, la crise des missiles de Cuba ou l'année 68 dans le monde. C'est vrai que ça fait léger. Mais est-ce tout ce qui explique ma confusion ?
Il y a toujours une confusion entre l'Indochine, l'État colonial d'un côté, et le Vietnam de l'autre.
Christopher Gaucha, professeur des relations internationales à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste de la guerre d'Indochine, m'apprend que nos amalgames s'expliquent aussi objectivement sur le plan militaire. En fait, il n'y a pas eu de coupure entre la présence française et la présence américaine. Les Américains aident les Français en Indochine dès les années 50 pour faire barrage au communisme et financent 80% de leurs dépenses.
Il ne faut pas faire une distinction trop nette en disant que là, c'est les guerres françaises et là, c'est les guerres américaines. Ce qui est intéressant dans les recherches actuelles, c'est qu'on voit bien que les Chinois et les Américains, ils étaient déjà présents dans la guerre d'Indochine. Donc, c'est une guerre de 30 ans en quelque sorte aussi. Hein. Je pense que c'est une façon de le dire, entre 46 et 75.
46, c'est le début de la guerre avec les Français, et 75, la fin de celle avec les Américains.
Entre 45 et 75, 4 millions de Vietnamiens sont décédés à cause de la guerre sur 30 ans. 4 millions. Beaucoup plus de civils que de combattants. Moi, je dirais que c'est sans doute la guerre de décolonisation la plus violente du XXe siècle. Donc le Vietnam a beaucoup, beaucoup souffert.
La guerre de décolonisation la plus violente du XXe siècle, on ne me l'a jamais présentée comme ça. Et ça ne s'arrête pas là.
À partir de 50, les Américains vont donner des armes encore plus puissantes aux Français. Donc les Français, grâce aux Américains, utilisent la napalm bien avant les Américains ne l'utilisent lors de la guerre du Vietnam. Il est vrai que cette guerre était très violente dans les villages. Et c'est là où on a eu des massacres, des atrocités terribles. Donc les Américains vont les commettre pendant la guerre du Vietnam, mais les Français les commettent aussi. Il y a eu des atrocités, ils étaient connus. Il y a eu la torture. La torture n'a pas commencé en Algérie. Si vous voulez comprendre la torture en Algérie, il faut commencer en Indochine. Le viol, ça se passait. On ne peut plus le nier. Est-ce que c'est toute l'armée française ? Non. Ça l'est pas. Est-ce que ça s'est produit ? Oui. Est-ce que c'était grave ? Oui. Est-ce qu'il faut en parler ? Oui.
Comment ça se fait que dans la société, cette histoire aussi grave et marquante soit complètement passée à la trappe ? Que personne ne sache que les Français ont utilisé du napalm au Vietnam, par exemple. Pourquoi les récits mémoriels de cette guerre occupe une si petite place dans l'espace public, alors même qu'on a un moment de plus grande ouverture autour des passés coloniaux.
Mais ce qui me frappe en ce qui concerne la guerre d'Indochine, c'est comme si je dois faire une autopsie d'un oubli. Donc, de quelque chose qui n'existe pas. J'essaie justement de me faire une idée, mais quelles pourraient être les raisons pour ce silence? Pourquoi le poids politique indochinois est tellement moins important que le poids politique, disons, algérien?
Il m'a donné plein de facteurs. Déjà, la guerre d'Indochine est compressée entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Quelques mois les séparent à chaque fois, la place mémorielle est donc déjà bien chargée. Ensuite, ce n'est pas une colonie de peuplement, mais d'exploitation. Pour avoir un ordre de grandeur, on parle de 40 000 Français d'Hexagone en Indochine, pour plus d'un million en Algérie, par exemple.
Au niveau démographique, je constate que le nombre de Français d'Algérie, c'est un chiffre beaucoup plus important. Et la plupart de ces Français d'Algérie, pas tous, mais la plupart, vont s'installer en métropole en France. Ils vont créer leurs propres associations, leurs maisons d'édition, ils vont publier leurs mémoires. Donc, ça crée des mémoires.
Puis, le conflit se passe loin, sans frappe sur le sol hexagonal, ni soldats appelés. Les familles françaises n'ont pas de fils, de pères, d'oncles qui partent faire la guerre en Indochine, puisqu'une grande partie des soldats vient d'autres colonies.
C'était donc la Légion étrangère. C'était des soldats du Sénégal, de l'Algérie, du Maroc, du Vietnam. Ils ont amené, en quelque sorte, leur mémoire avec eux, mais ailleurs qu'en France, vous voyez.
Bref, vous prenez tout ça, plus la faible mobilisation des intellectuels de l'époque et le peu de prise de parole politique, encore aujourd'hui, et on a notre autopsie d'un oubli.
Mais quand même, je trouve ça étrange qu'on a toujours du mal d'aborder ces questions en France. Et lorsqu'on voit la guerre d'Algérie et ce qui a été écrit sur la guerre d'Algérie, là, c'est beaucoup plus avancé. On peut parler de ces choses-là, tandis que c'est le silence sur la guerre d'Indochine.
Gisèle, ma grand-mère, est partie en 55. Elle a donc vécu toute la guerre d'Indochine sur place. Je n'avais pas conscience de la violence dont Kim et les historiens m'ont parlé. Elle ne me l'a pas raconté, mes cours d'histoire non plus. Mais ça se voyait dans son rapport aux choses, à la nourriture, à ses peurs. Elle avait ça en elle.
Je crois qu'à cause de ça, je réalise que la vie, elle peut s'arrêter comme ça, à la seconde. Et on n'est jamais préparé. C'est tous les jours que je suis heureuse d'être vivante. Oui, chaque jour. Mais peut-être parce que la mort est présente dans ma vie.
Mais les douleurs ne s'arrêtent pas au traumatisme de la guerre. Ensuite vient l'exil.
Parce que quand tu vis cette scission, je crois que tu t'en remets pas. Donc tu te rappelles de tout, du ciel, de l'eau, le pont et le quai qui s'éloigne. Quoi. Ça veut dire, mon Dieu, mais tu meurs. Je crois que tu... Ouais, à ce moment-là, il y a une partie de toi qui meurt complètement.
L'exil et ses conséquences sur les générations suivantes, c'est le sujet de notre prochain épisode.
Votre écoute et merci au journal Libération d'être partenaire de Ma Tonkinoise. À cette occasion, Louis vous offre un mois d'abonnement gratuit à Libération sans engagement. Rendez-vous sur libé.fr/code promo et entrez le code Louis tout en majuscule. Vous n'aurez même pas besoin de votre carte bancaire. Bonne lecture et bonne écoute.